Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
La crise iconoclaste, troisième partie, la réponse du second concile de Nicée. Il est temps aujourd'hui de reparler de Saint Jean Damascène, vers 650 jusqu'à 750, cette fois-ci non plus en tant que contradicteur de la foi islamique, mais en tant que grand défenseur du culte des images. Le Damascène, comme l'appelle la tradition, vivait certes sous la domination musulmane, il était devenu moine au monastère de Saint-Saba, non loin de Jérusalem, mais il vivait en dehors des territoires contrôlés par l'Empire byzantin, et il pouvait ainsi écrire librement en faveur des iconodules, comme il le fait dans son discours apologétique contre ceux qui rejettent les saintes images. Ce texte est écrit vers 730, avec l'argumentaire de Constantin, avant l'argumentaire de Constantin V, et sa pensée sera prolongée plus tard par le patriarche Nicéphore, exilé sous Léon V, et par saint Théodore Studite. Essayons de synthétiser en quelques mots ces trois grandes pensées. Premièrement, en suivant l'enseignement d'un grand théologien du Ve siècle, pseudo-Denis, dit Denis l'Aréopagite, Jean Damascène constate tout d'abord que nous, qui sommes corporels, avons besoin des réalités corporelles pour nous conduire aux réalités spirituelles. Pour lui, l'image n'est donc pas à proscrire, simplement, elle est hiérarchisée selon le degré de participation plus ou moins complète au prototype qu'elle figure. L'icône est placée en bas de l'échelle. Mais pour autant, l'image n'est en rien disqualifiée. Les icônes sont non seulement des sermons silencieux, comme il dit, des livres pour les illettrés, des mémoires des mystères de Dieu, comme il dit toujours, mais aussi des signes visibles de la sanctification de la matière rendue possible par l'incarnation. De la sorte, il y a comme une communication diffusive de la sainteté du corps du Christ aux autres matières. Pour le dire autrement, ce qui est communiqué dans l'icône, c'est moins le visage, l'identité de la personne divine, que son énergie transmise à travers la matière de l'icône à la manière d'un sacrement. Deuxièmement, Nicéphore Ier, dit le confesseur, patriarche de Constantinople de 806 à 815, s'inscrit dans cette ligne de pensée. Son originalité consiste à rompre avec une très ancienne tradition de l'image qui voulait qu'elle soit consubstantielle à son prototype de manière à en capter presque magiquement les forces et la présence. Nicéphore a en quelque sorte dédramatisé la question de l'image en la transposant sur un plan rhétorique et illustratif. La peinture, écrit-il, consiste entièrement dans l'appréhension sensible, dans le fait de montrer, de circonscrire. L'icône ne prétend pas être une image naturelle de son prototype, car si c'était le cas, les iconoclastes auraient raison de dire qu'elle est irréalisable. C'est une image artificielle, qui n'est pas de la nature du prototype, mais qui se contente de l'imiter. Elle ne l'enferme pas en elle, elle le désigne simplement. Troisièmement, Théodore Studite, enfin, 759-826, ainsi appelé parce qu'il était moine au monastère du Studion à Constantinople, Théodore Studite donc entreprend de répondre à la question soulevée par la pensée de Nicéphore. Si l'image imite ou désigne simplement, qu'advient-il de la divinité du Christ sur les images qui le représentent? Est-ce encore lui que nous voyons sur l'icône ou bien seulement sa nature humaine? Théodore Studite répond « C'est bien lui que nous voyons, car en lui l'invisible se fait voir. Ce que nous voyons, c'est sa personne même, sa personne et non sa nature. L'icône ne représente pas une nature, elle représente quelqu'un. De même que l'homme réel n'est pas l'idée d'homme, mais un individu subsistant, de même le Christ est quelqu'un. Les traits de son visage n'expriment pas une nature n'a pas de traits, mais la personne du Verbe. Ainsi, ajoute Théodore, il ne faut pas nommer l'icône « image du Christ », il faut aller jusqu'à la nommer « Christ », tout simplement. À la question qui lui est posée, Théodore répond donc de manière très claire, mais finalement très différente à celle de Nicéphore, et même opposée à elle. Sa conception s'oppose aussi à celle de l'Église d'Occident, qui verra dans les représentations du Christ plutôt des évocations que des représentations. En veut-on la preuve ? L'art religieux occidental ne cessera d'évoluer dans le temps et dans l'espace. On pourra représenter des enfants Jésus blonds aux yeux bleus, ou basanés, et même de type africain ou asiatique, hiératiques ou détendus, proches des momies égyptiennes, pensons à Jésus dans ses langes, jouant dans les bras de sa mère, folâtrant dans la campagne en compagnie de Jean-Baptiste, etc. Cet art occidental sera toujours très libéral, autorisant des représentations très mondaines, à condition qu'elles ne contreviennent pas aux règles de la décence, mais de cela même il finira par s'affranchir. L'art de l'icône, tout au contraire, sera très vite sacralisé, voire figé. C'est un art qui ne peut pas évoluer, car l'icône relève de l'univers sacramentel et non de la fantaisie artistique. Celui qui écrit des icônes est donc un copiste, d'où l'usage du verbe écrire, avant d'être un artiste. Ce n'est pas que l'art de l'icône ne soit pas un art, mais il exige une codification stricte, et c'est seulement à l'intérieur de cette codification, et sans prendre de liberté avec elle, que l'iconographe peut déployer son talent ou son génie. Mais chacun des deux mondes, occidental et oriental, recèle des dangers qui lui sont propres. Si l'art occidental a depuis longtemps succombé au risque de se paganiser en se détachant du religieux, l'icône de son côté court le risque de s'épuiser à force de vouloir représenter le ciel sans jamais représenter la terre. Dans ses décisions, le Second Concile de Nicée a condamné le synode de Hiéréia, convoqué par Constantin V, et proclamé la légitimité de la tradition iconodule. Dans une belle comparaison entre l'image et la parole, il affirme que l'une comme l'autre font signe vers une autre réalité. Une image, c'est une parole rendue visible. Il affirme aussi que c'est bien le Verbe fait chair qui s'est rendu visible par son incarnation et qui est représenté en image, même si la divinité comme telle dépasse toute représentation. De manière analogue, quand on représente Pierre, on ne représente pas son âme invisible, et c'est pourtant bien Pierre qui est représenté. Quant à l'Eucharistie, qu'Eusèbe de Césarée assimilait à une image, elle est évidemment bien plus qu'une image, elle est le Christ lui-même. Voici les textes de Nicée II. Nous conservons inchangées toutes les traditions de l'Église, écrites ou non écrites, qui nous ont été solennellement transmises. L'une d'entre elles est la figuration par l'image des personnes vivantes qui fait accord avec le récit de la prédication évangélique en vue de fortifier la foi en l'incarnation, véritable et non en apparence, du Verbe de Dieu. Nous définissons que comme les représentations de la croix précieuse et vivifiante, aussi les vénérables reliques et saintes images, qu'elles soient peintes, en mosaïque ou de quelque autre matière appropriée, doivent être placées dans les saintes églises de Dieu, sur les saints ustensiles et les vêtements, sur les murs et sur les tableaux, dans les maisons et les chemins, aussi bien l'image de Dieu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que celle de Notre-Dame Immaculée, la Sainte Mère de Dieu, des saints anges, de tous les saints et des justes. En effet, plus on regardera fréquemment ces représentations imagées, plus ceux qui les contempleront seront amenés à se souvenir des modèles originaux, à se porter vers eux, à leur témoigner en les baisant une vénération, adoration en latin, sans que ce soit une adoration, latreia, véritable selon notre foi qui ne convient qu'à Dieu seul. Donc méfions-nous du mot adoratio qui, dans le texte, ne veut pas dire adoration mais vénération. Mais comme on le fait pour l'image de la croix précieuse et vivifiante, pour les saints évangiles et pour les autres objets et monuments sacrés, on offrira de l'encens et des prières en leur honneur, selon la pieuse coutume des anciens. Car, citation de saint Basile, l'honneur rendu à une image remonte au modèle original. Quiconque vénère une image vénère en elle la personne de celui qui y est représenté. Ainsi se conclut une crise majeure dont les leçons à tirer sont multiples. Sur le plan social et politique, on assiste à un nouvel essor du monachisme, car les moines sont les grands vainqueurs, en même temps qu'à une limitation de l'autonomie du pouvoir civil. L'empereur est représenté rendant hommage au Christ plutôt que remportant des triomphes temporels. Sur le plan théologique, le deuxième concile de Nicée clôt le cycle des hérésies trinitaires et christologiques qui durait depuis quatre siècles. De ce fait, la résistance religieuse à la pression de l'islam sera plus décidée, ainsi que le note Alain Besançon, je cite. Alors que l'islam avait profité des fissures ouvertes par le monophysisme et le nestorianisme pour détacher du christianisme toute l'Afrique et tout le Moyen-Orient, quand il recouvrit plus tard les Balkans et la Russie, il ne put pas procéder aux conversions massives qui avaient marqué ses débuts. L'orthodoxie purgée des hérésies avec l'iconoclasme qui les résumait toutes resta ferme dans sa foi. De tous ces développements, on doit conclure que la théologie de l'image, loin d'être une question marginale, met en lumière et récapitule la spécificité de la foi chrétienne. Dans le judaïsme, il n'y a pas d'image parce que Dieu est tout près. Dans le monothéisme abstrait de l'islam, il n'y a pas d'image parce que Dieu est trop loin. Et du même coup, dans l'islam, il n'y a d'art que profane, car Dieu est si loin qu'un art sacré est impossible. Dans le christianisme, au contraire, non seulement l'art sacré est possible, mais l'art profane lui-même a toujours quelque chose à voir, même négativement, avec l'incarnation. La théologie de l'image récapitule aussi la vie chrétienne. Si l'homme est image du Verbe, s'il est tout ce qui concerne la destination de l'être humain, la grâce, le péché, la rédemption, devra se rapporter également à la théologie de l'image. Et l'on pourra dire la même chose de l'Église, des sacrements, de la vie spirituelle, de la sanctification, de la fin dernière. Il n'y a pas une seule branche de l'enseignement théologique que l'on pourrait isoler complètement du problème de l'image, sans courir le risque de la séparer du tronc vivant de la tradition chrétienne. On doit enfin souligner que l'icône a une portée sacramentelle. Elle n'est pas un sacrement, mais elle est reliée aux sacrements et à leur fonction de service de la transfiguration de l'homme par la charité. C'est la charité qui se déchiffre sur le visage du Christ, et c'est elle qui, transfigurant le visage du Christ, est aussi capable de transfigurer le nôtre. La charité, écrivait saint Maxime le Confesseur, est icône de Dieu. Je le cite pour finir. La charité est un grand bien, le premier des biens, le bien suprême. Par elle-même, elle conjoint Dieu et l'homme en celui qui la possède. Elle fait en sorte que le Créateur des hommes se montre comme homme par l'exacte ressemblance avec Dieu dans le bien que possède l'homme divinisé. Cette ressemblance habilite à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et son prochain comme soi-même.